Et vous nous avez parlé, Louis-Marie, il y a quelques minutes de jouets remuants. Je crois qu'on les connaît tous, ces jouets.
Ah oui, c'est sûr et certain. 30 ans après avoir découvert que les jouets avaient une vie en dehors de celle imaginée par les enfants, Pixar a trouvé un moyen de prolonger les aventures de Woody et Buzz, malgré un quatrième volet sorti en 2019 qui semblait conclure définitivement leur histoire. La société californienne propose pour leur retour un thème particulièrement actuel, la concurrence entre les jouets traditionnels et les écrans dans l'imaginaire des enfants. Toy Story 5 confronte ses héros à une nouvelle menace, non pas un méchant classique, mais une tablette intelligente baptisée Lilypad, symbole d'une génération davantage attirée par la technologie que par les jouets. Comme les précédents épisodes, Toy Story 5 s'adresse autant aux adultes ayant grandi avec la franchise qu'aux jeunes spectateurs. La question centrale n'est plus seulement celle de l'abandon ou du passage à l'âge adulte, mais celle de la place du jeu dans un monde dominé par les écrans. Une réflexion qui trouve un écho pertinent dans les préoccupations contemporaines. Toy Story 5 semble retrouver l'esprit de la série tout en lui offrant une nouvelle raison d'exister. À suivre donc.
The grass in summer, parachutes for the free fall of being younger. I memorize the sound of your bare footsteps running wild. It's been a long time. Life has ways of leaving those days behind, but seeing you tonight, I remembered I loved.
Et un film qui parle à tous, puisque il est sorti, le premier est sorti en 99, Louis-Marie, c'est ça?
Non, 95.
95, bah j'étais pas né, vous voyez. C'est-à-dire que ça parle, puisque...
Donc vous avez grandi avec la série.
Et c'est ça, et maintenant Woody a une calvitie.
Vous êtes très drôle.
Ben voilà, donc ça passe, ça parle un peu à tout le monde.
Effectivement.
Voilà, donc c'est ça qui est assez étonnant, ça parle aux ceux qui ont grandi avec, comme à ceux qui vont le découvrir en salle aujourd'hui ou dans les prochains jours. Alors après l'aventure de Woody et Buzz l'éclair, on passe au récit sensoriel.
5 ans après True Mothers, la réalisatrice japonaise Naomi Kawase revient à la fiction avec l'illusion de Yakushima. Fidèle à ses thèmes de prédilection, le deuil, la mémoire et les liens invisibles entre les êtres, la cinéaste livre une œuvre sensible portée par la remarquable Vicky Krieps. Le film suit Cory, infirmière coordinatrice de transplantation cardiaque pédiatrique, installée à Kobe. Confrontée aux réticences culturelles entourant le don d'organes au Japon, elle lutte quotidiennement pour sauver des enfants en attente de greffe. Sa vie bascule lorsque Jin, son compagnon photographe rencontré sur l'île de Yakushima, disparaît mystérieusement. Entre engagement médical et douleur intime, Cory est amenée à s'interroger sur la frontière entre la vie, la mort et l'acceptation de la perte. Fidèle à son style, la cinéaste mêle réflexion sociale et quête existentielle. La nature luxuriante de Yakushima, filmée comme un espace presque mystique, devient le décor d'une histoire d'amour hantée par l'absence et l'illusion. En s'appuyant sur la retenue et l'observation, la réalisatrice évite le piège du mélodrame pour privilégier une approche profondément humaniste. La narration, construite en aller-retour entre passé et présent, accompagne le cheminement intérieur de l'héroïne et relie habilement son combat professionnel à son drame personnel. Si cette structure non linéaire peut parfois sembler redondante, elle renforce la dimension émotionnelle du récit. Portée par l'interprétation sobre et sensible de Vicky Krieps, l'illusion de Yakushima tisse un double récit entre amour et volonté de sauver des vies. En brouillant les frontières entre fiction et documentaire, Naomi Kawase livre une réflexion délicate sur les paradoxes du système médical japonais et sur la nécessité de préserver l'espoir face à la disparition et à la maladie.
Et de qui est-il question dans la chronique sociale que vous nous avez promise, Louis-Marie?
d'un couple et de leur fils. Alice et Luc attendent avec bonheur la naissance de leur fils Ulysse. Mais dès sa première année, les médecins détectent un syndrome génétique rare qui affectera son développement. Face à cet avenir incertain, Alice se mobilise sans relâche pour accompagner son fils dans son apprentissage de la vie et lui permettre de trouver sa place dans la société. Ulysse, le film de Laetitia Masson, aborde avec sensibilité la question du handicap cognitif à travers le parcours de cet enfant. Le récit le suit depuis la grossesse de sa mère jusqu'à son insertion scolaire et professionnelle. À travers les étapes de son développement, c'est surtout le combat de sa mère qui constitue le cœur du récit. Interprété avec une grande justesse par Élodie Bouchèze, Alice refuse de renoncer aux possibilités d'avenir de son fils malgré les obstacles administratifs, scolaires et sociaux qui se dressent sur son chemin. Elle apporte à son personnage autant de fragilité que d'énergie et de détermination. Sans discours démonstratif, Laetitia Masson montre comment les institutions participent parfois à l'exclusion des personnes concernées. Le film met ainsi en lumière le parcours épuisant des familles confrontées à des structures souvent inadaptées à leurs besoins. La cinéaste souligne aussi les conséquences du handicap sur la cellule familiale en décrivant avec réalisme les tensions qui fragilisent le couple parental. Cette dimension intime enrichit le récit qui ne se limite jamais à une simple chronique sociale. Malgré quelques invraisemblances scénaristiques, notamment dans la représentation de l'accès aux structures médico-sociales, parfois plus simples que ne le connaissent la plupart des familles concernées, Ulysse s'impose comme une œuvre nécessaire, une œuvre dont la mise en scène sobre et classique privilégie le propos plutôt que l'expérimentation formelle. En donnant une visibilité à des réalités souvent ignorées, Laetitia Masson signe avec Ulysse un film engagé qui invite à repenser l'inclusion et les pratiques professionnelles dans les domaines éducatifs, médical et social.